cas, c'est substitué. Troisième et avant-dernier exemple, concernant le photogramme de cette révolutionnaire, alors vous voyez son petit point fermé, le troisième sens, selon Roland Barthes, se révèle dans cette masse de cheveux qui compose son chignon et qui contredit le petit point levé et atrophie le sens a priori. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si j'arrive bien à comprendre, c'est que quelqu'un qui décrypterait cette image verrait tout un certain niveau de signification, ce que j'ai essayé de faire valoir, qui sont les significations qu'on reçoit massivement, en plus dans un contexte de film qui se veut propagandiste, bien évidemment. Et donc, Barthes, au lieu de lire cela, lit cela, mais ce qu'il lit en plus, et qui est pour lui l'essentiel du film, c'est précisément que ce troisième sens qui vient même à la limite, sinon nier les précédents en tout cas, le réduire, et peut-être c'est ce qui l'intéresse le plus, c'est ce moment où cette révolutionnaire, dont on pourrait faire l'emblème d'une posture gagnante, cette masse compacte de cheveux, ce chignon, ces bouclettes même qu'il évoque sur le côté, vient un tout petit peu contredire l'essence première. Dernier exemple enfin, mais ça je voulais juger de la pertinence du propos de l'art. Enfin, dans ce photogramme du couronnement du fils qui est complètement idiot, là, dans Léon Péric, là c'est voilà, un sens qu'on reçoit immédiatement et que tout le film scénarise, bien sûr. Donc à la mimique inquiétante de Vivant, qui était, vous reconnaissez par Michel, à la niaiserie du jeune Sarah qui est là au milieu, se superpose. Alors on pourrait faire la question dans un peu de temps, si je vous dirais tout le troisième sens, se superpose la beauté du troisième protagoniste, un certain érotisme, etc., etc. Donc oui, j'espère vous avoir fait saisie, sinon vous avoir convaincu de son existence, de ce qu'est ce troisième sens pour Barthes, qui va développer par une page et une page. En bref, qu'importe que ce troisième sens soit difficile à fonder, ce que reconnaît absolument Barthes, ou qu'il soit impossible d'y discerner une quelconque intentionnalité du cinéaste, ce qu'il reconnaît aussi absolument, il ne peut advenir ce troisième sens, selon lui, qu'au terme, et ça c'est intéressant, à terme, je cite, d'une lecture suspendue entre l'image et sa description. Entre l'image et sa description. Vous voyez comment, par un paradoxe, on peut retrouver quelque chose qui finalement n'est pas tant contre le film qu'en amont du film, et donc peut-être quelque chose qui est entre l'image et la description, qui peut faire songer au photogramme. D'ailleurs, dans une note de ce même article, Barthes associe d'ailleurs le troisième sens à ses autres arts, dit-il, qui combinent le photogramme, ou du moins le dessin et l'histoire, qui sont le photoroman et la bande dessinée. Donc vous voyez que lui-même renvoie ce troisième sens, même s'il transite par le photogramme, à une pratique qui est en amont du film, dont on a parlé ce matin à deux moments. Cette pensée faisant jouer d'une certaine manière le photogramme contre le film sera radicalisée. Quelque temps plus tard, sous la plume d'une critique des games cinéma, Sylvie Pierre, dans un article intitulé « Éléments pour une théorie du photogramme », vous voyez, le photogramme au games cinéma, comme les cinémas, les autres, je le dirai après ça. Pas la peine de choisir. Donc, dans un article intitulé « Éléments pour une théorie du photogramme », selon l'auteur Sylvie Pierre, en effet, les photogrammes ne seraient plus à considérer tels que l'envisageait Roland Barthes, qu'elle trouvait décidément bien timide, contre le récit même, vous voyez quand même quelque chose qui allait à l'encontre du récit, à rebrousse-poil un petit peu du film, et c'est ce qui l'intéressait. Il n'aimait pas le cinéma, c'est clair. Mais au contraire, selon Sylvie Pierre, comme les plus solides chevilles du récit, le photogramme, selon Sylvie Pierre, si je résume un petit peu en exagérant, serait encore en quelque sorte le vrai film. On en était arrivé à un moment donné dans cette théorisation du photogramme. Le vrai film, c'est le photogramme. Donc vous voyez, c'est mon titre, photogramme contre le film. Alors, le photogramme, donc, contre le film, pour conclure sur ce paragraphe, il convient, c'est ce que j'avais commencé à dire, il convient de nuancer ses arguments en rappelant que ses réflexions, celles que je viens d'extraire du texte de Barthes, du texte de Pierre, se déploient dans une époque, dans un temps, le début des années 70, et dans un lieu, le pays du cinéma, où une idéologie anti-cinéma est largement diffusée. Il est clair que ce sont des armes de guerre, non pas en faveur du storyboard ou de quelconque pratique, c'est surtout le cinéma, c'était le moment très, je ne sais plus qui disait ça, iconophobe des cahiers du cinéma. Néanmoins, on peut suggérer, parce que c'est si j'ai fait référence et qu'il y a quelques raisons, on peut suggérer que la question du photographe et de son rapport au film entre, en un sens, en résonance avec celle que se pose à leur manière les storyboarders. Le storyboard vaut-il ou non pour le film ? C'est une question qui devient à ce moment-là légitime. Considérons maintenant un autre cas, constitué par l'usage fait du dessin par Eric Rohmer, ou si l'on préfère, on revient à titrer le départ inversé, l'analyse du côté du storyboard. Tout à l'heure, c'était le storyboard du côté de l'analyse avec Eisenstein, ou Eric Rohmer, storyboarder. Tout à l'heure, c'était Eisenstein, analyse, donc Eric Rohmer, storyboarder, qui pourrait être le titre de cette troisième partie. À la même époque, en 72, précisément, le cinéaste Eric Rohmer, à l'occasion de la rédaction de sa thèse consacrée à l'organisation d'espace dans le Faust de Murnau, que je citais tout à l'heure, film de 26, qui sera publié 5 ans plus tard, sous le titre que je viens de dire, c'est le même titre que sa thèse, conjugue l'analyse de séquence à la manière cinélogique, bien évidemment, enfin à la manière de Rohmer aussi, hein, c'est quand même. La cinélogie pure et dure, mais c'est quand même d'inspiration cinélogique, et le dessin sous forme de storyboard, tout comme Eisenstein. Il dessinera en effet ses schémas pour les besoins de son analyse, on va voir les exemples, comme il le dira, et je cite, par décalcage sur écran de visionneuse. Donc voilà les dessins. Dessine.
C'est de la triche.
C'est de la triche. C'est pour ça que je suis pas allé prendre des films dont Gounod avait fait le storyboard. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passerait ? Les dessins de Rohmer par décalcage des photogrammes pourraient renvoyer directement au dessin que tu aurais fait. Mais vous voyez bien, donc.
C'est une épure de l'image, tu vois, ça va.
Donc là, on découvre, on verra d'autres dessins. Donc quelques plans dessinés par la main de Rohmer à partir de photogrammes de films de Murnau. C'est vrai que quand on regarde, ça s'apparente un tout petit peu comme Eisenstein. Vous voyez bien pourquoi j'essaie d'aller chercher dans les périphéries des pratiques du cinéma des choses qui peuvent, comme ça, en résonance avec le film. Il est vrai que dans une note de son ouvrage, Rohmer retrouve une citation du traducteur du second Faust. Je vous ai parlé du traducteur du second Faust de Goethe. Et ce traducteur, et la citation est intéressante, vous allez voir pourquoi, parce qu'elle va nous ramener vraiment à la réalité du cinéma. Il disait, ce traducteur du second Faust de Goethe, il rappelle l'importance de la préoccupation plastique chez l'écrivain. Allons avant de conclure, et là je cite ce traducteur, lui-même cité par Rohmer, pour produire l'effet recherché par Goethe, il est certain qu'il faudrait que sa tragédie fût filmée par un cinéaste supérieur, ou tout du moins montée par quelques metteurs en scène extraordinaires, ou illustrée par un dessinateur génial. Vous voyez qu'il y a cette idée du dessin déjà, pourtant le traducteur ne sait pas la fonction de s'immiscer dans un processus qui lui est largement étranger. Rien d'étonnant dès lors qu'après le décor et la lumière, le cinéaste français Eric Rohmer, dans son chapitre consacré à l'espace pictural, examine la question du dessin chez Murnau et de sa similitude avec le photogramme. C'est ainsi que Rohmer écrit « L'impression immédiate que donne un photogramme d'un film de Murnau est celle d'une plénitude de traits qui n'appartient qu'à lui. » La plénitude de traits, donc vous voyez, la pratique graphique va être très largement évoquée. Quelques pages suivantes, le dessin est désigné par Eric Rohmer comme étant à l'origine du filmique. Rohmer poursuit, confronté avec une gravure ou un dessin à la plume, certaines de ces images, les images de Faust, hein, confrontées avec une gravure ou un dessin à la plume, certaines de ces images tiennent et ne révèlent par aucun indice leur origine photographique. Ça, c'est tout à fait intéressant, la radicalité aussi de la pensée de Rohmer là-dessus. On peut parler à propos donc de ces images du film de Faust, au sens propre, de touche, de trait, de tracé. On y reconnaît cette liberté, poursuit Rohmer, cette aisance que seule peut donner l'adresse et l'autorité d'une main. Alors, vous voyez, là, je joue vraiment un peu les chevauchements de pensée, puisque c'est maintenant le cinéaste lui-même qui est assimilé à un dessinateur. Fétichisation, là encore, du photogramme, voire du dessin, pourrait-on dire. Mais là où les approches de Barthes et de Romère n'y voyaient qu'un prétexte à nier le flux filmique, le photogramme pour le film, Romère précise bien que pour Murnau, et là je cite Romère, c'est le mouvement, surtout chez lui qui fait le dessin, c'est le mouvement qu'il charge de déformer, d'interpréter à la place de sa main absente. Donc voilà le sort, enfin la définition qui est faite du rôle du cinéaste Murnau par Romère. Par là même, l'analyse de l'espace de fausse de Murnau retrouve la préoccupation majeure du storyboarder, j'essaie toujours quand même de revenir à votre point de départ, qui sont lesquels, qui est laquelle, la figuration du mouvement dans le plan, c'est-à-dire le mouvement dans le plan certes, mais le mouvement du plan lui-même, ainsi que le mouvement qui unifie les plans entre eux. On peut même avancer que sous couvert d'analyse filmique via le photogramme, Éric Romère retrouve d'une certaine manière le storyboard en tant que tel. Conscient de ces... j'ai oublié. Je regarde. Voilà. C'est facile. Tout à l'heure, je vous ai montré des dessins. J'ai oublié, pardon, j'aurais voulu vous montrer ces planches avant. Tout à l'heure, je vous ai montré des dessins isolés. Ici, on voit en revanche, vous voyez la numérotation, 548, 549, 750. Là, on a vraiment le découpage qui est dessiné et là qui s'apparente. Les premiers dessins pouvaient à la limite renvoyer au dessin initial d'Eisenstein. Ici, on voit bien que dans ces planches-là, ce ne sont pas les plus nombreuses. Enfin, c'est un peu mélangé dans les reproductions qu'a édité Romère. On retrouve des séquences entières qui sont données dans leur continuité. Et donc, à ce titre-là, ça s'apparente. Bien sûr, en tout cas à ce que l'on peut voir du photographe. Autre partie, l'autre film. C'est bien la peine de me présenter. Non, c'est pas bien. On en a vu un autre. L'autre film, le film virtuel, donc le titre de ma partie avant ma conclusion. Ce film, autre que le film, et qui n'existe que virtuellement, on peut le définir par un ensemble de doubles négations. Puisque le photogramme, le storyboard, sont forcément dans une relation au film que Bruno a très bien défini ce matin, si près du film, encore loin du cinéma. D'ailleurs, on va retrouver un titre qui va s'en parler. Cet autre film que le film, et qui n'existe que virtuellement, on peut le définir par un ensemble de doubles négations. La première d'entre elles pourrait être formulée comme suit, ni arrêt sur image, ni défilement d'image. Ni arrêt sur image, ni défilement d'image. Si je reviens à Christian Metz sur avoir fondé la sémiologie du cinéma, c'est à Raymond Bellouc que cette théorie doit cette nouvelle application qui en a découlé, comme j'ai dit tout à l'heure, l'analyse filmique. Inaugurant celle-ci, comme une analyse des oiseaux, Raymond Bellouc en a théorisé la pratique dans l'analyse du film auquel je vais emprunter quelques-unes de mes définitions. Procéder à l'arrêt sur l'image en s'efforçant de la rendre visible, tel est l'objectif recherché lors de la prise de notes en cours de projection à laquelle recourt Raymond Bellour en vue de ses analyses. Cet arrêt sur image, sans interruption du défilement, parce qu'il faut se placer à l'époque où les magnétoscopes, les lecteurs, ça n'existait pas, c'est que le seul moyen, c'était vraiment, on allait dans le salon de cinéma, si on n'avait pas le temps de montage et accéder à la cinémathèque, et dans le salon obscur, de noter au fur et à mesure. Il faut bien voir les conditions, si on veut comprendre un tout petit peu, au moins le début des. Du propos du niveau. Cet arrêt sur image sans interruption du défilement aboutit, selon ses propres termes, à un squelette, c'est le mot qui a été utilisé, d'ailleurs je parle peut-être, je ne sais pas si c'est Bruno, si Diane ou quelqu'un d'autre ce matin, à un squelette de cette succession polyvalente d'éléments qui constitue presque toujours un film. Le squelette analytique, elle écrit-il un petit peu plus tard, s'y dessine comme lui-même. Le squelette analytique s'y dessine comme lui-même. On pourra bien qu'il y ait une tentation comme ça de retrouver quelque chose qui est de l'ordre de ce qui prévaut à l'existence même du film ou de la storyboard. Fin de citation. Ce squelette de film qui se dessine a aussi en commun avec le storyboard cette nécessité du flux filmique, de la prise en compte narrative, car un plan ne fait pas plus un découpage qu'il ne fait un storyboard. Je ne sais plus si c'est Diane qui a déclaré ça un jour.
Oui.
Le storyboard est une séquence d'images montrant une narration. C'est toi qui as dit ça.
C'était un
inventaire. J'étais plus sûr que la citation soit exacte. Le storyboard est une séquence d'images montrant une narration. Par ailleurs, l'une et l'autre pratique se doivent d'admettre qu'elles ne sont pas le film. Il faut accepter, précise Thierry Kunzak, que j'ai cité tout à l'heure comme étant un de ceux qui avaient pratiqué l'analyse filmique, il faut accepter de se situer, quand on veut procéder à cela, ni du côté de la mouvance, ni du côté de la fixité, mais entre les deux. Dans l'engendrement du film projection, par le film pellicule, dans la négation de ce film pellicule, par le film projection. Alors, que veut dire film projection? C'est évidemment le film qui est véritablement celui qui est celui qui est montré sur l'écran, et le film projection, c'est celui qu'enregistre celui qui prend les notes et qui essaie à un moment donné d'établir un découpage technique. Et donc, évidemment, le décalage, et ce décalage, il est de l'ordre, précisément, ni arrêt sur image, ni effectivement image, il se dit, entre les deux. Je vous donne le sens de ces mots, évidemment, film projection, film pellicule, ne sont pas les termes qui sont très familiers, ils n'existent en clair pour eux, évidemment, que le film projection. Cet autre film dont fait état l'analyste ne relie pas, d'une certaine manière, au film virtuel, parfois évoqué par le storyboarder. Ni arrêt sur image, ni défilement d'image, me semble-t-il, peut être admis comme une chose commune aux deux. La seconde double négation pourrait être, quant à elle, la suivante, ni trop loin, ni trop proche. Trop loin, ni trop proche, là je pense que ça peut-être résonner avec ce que vous avez dit. Le storyboard situé après le texte, le scénario, et avant l'image du film, le photogramme placé, quant à lui, entre l'image du film et le texte de l'analyse, dans les deux cas du storyboarder et de l'analyste, le film tient lieu d'horizon. L'un qui se rapproche, le storyboarder, l'autre qui s'éloigne. Dans les deux cas, le film se dérobe, il reste en quelque sorte, me semble-t-il, une fiction de film. C'est néanmoins le film que le storyboarder et l'analyste recherchent. Nous l'avons bien compris pour le storyboard, il en va du même pour l'analyse. Ainsi, la première mouture de l'analyse d'une séquence des oiseaux réalisée par Bellour, lorsque Mélanie apporte par surprise des lovebirds à Mitch, comportait un découpage plan par plan, basé sur un découpage technique et ses propres notes prises en cours de projection. Voilà la première version publiée dans les Cahiers du Cinéma, ce texte que je qualifie de grand de l'analyse filmique. Donc on voit bien qu'il y a un découpage technique très précis, tout juste agrémenté de quelques photogrammes, osons le mot, du film. Et le risque encouru est à l'évidence. Quand on fait un sort très ténu au photogramme et que le découpage technique prend le dessus, c'est de répéter le film, de refaire le film un tout petit peu à l'instar de ce célèbre personnage de Borges, Pierre Ménard, qui a pour mission de si je me souviens bien, sinon, de traduire Don Quichotte pour qui ? D'écrire pour ses contemporains et qui se rend compte qu'il réécrit, même ça c'est vraiment à la base de la théorie des traducteurs, et on a une grande figure de traducteur ici présent. Je pensais pas que tu serais là quand je vais aller chercher, sinon peut-être j'aurais pas osé.
Don Quichotte de Pierre Ménard, c'est l'exemple d'une traduction parfaite,
c'est-à-dire de réécrire.
Identique à l'origine.
Identique à l'origine. Donc c'est vraiment donc ça c'est le risque évidemment encouru, c'est-à-dire de refaire le film, de répéter le film. Alors le second risque, non des moindres, c'est de mettre ce qu'il avait théorisé, il avait qualifié de scénario interminable, c'est le moment où la description n'épuise jamais le film, c'est-à-dire qu'effectivement d'un plan on veut toujours parler du costume, des réductions du costume, voilà les risques qu'encourt et effectivement le découpage technique. Conscient de ce double danger, Raymond Bellour, dans sa seconde version de cette même analyse des oiseaux, substituera au découpage du film les photogrammes du film, en tout cas, les placera en vis-à-vis. On voit bien, donc, à ce moment-là, bien sûr, il y a une colonne qui fait figurer toujours le découpage technique, mais en face, on a surtout, évidemment, les photogrammes qui correspondent véritablement. Et ce n'est plus du tout la même chose. C'est quoi ? Il y a un renvoi de l'un à l'autre, mais c'est quand même le photogramme qui l'emporte sur le film. On regarde tout à l'heure où quelques photos simplement venaient émaillir le discours. Dans tous les cas, les planches photogrammatiques, comme celle du storyboard, ont pour particularité pour les premières de commencer là où ça arrête le film, et pour les secondes de s'arrêter là où le film commence. Troisième double négation, enfin, qui réunit ces deux pratiques dans le rapport au film, ni l'autre film, ni le même. Concernant l'usage du photogramme comme substitut du film, Raymond Bellou rapporte qu'à propos de son analyse de la séquence de l'aveu amoureux dans Le Grand Sommeil, qui représente Laurine Bacall et Guillaume Prépogat, ceux qui ont vu le film, c'est la grosse scène dans la voiture où ils parviennent à s'avouer qu'ils s'aiment. Et donc, concernant cet usage du photogramme que faisait Bellou, puisqu'il a publié cette analyse, il a publié le photogramme, Kunzel lui faisait remarquer que dans le film de Hobbes, une différenciation dans l'éclairage, selon qu'il s'agissait d'un plan sur le visage de Margot ou d'un plan sur celui de Viviane, existait. Et que le photogramme n'en rendait pas compte. Bellou convenait en effet que cela est vrai, même si la reproduction photogrammatique ne le laisse apparaître qu'à demi. C'est-à-dire que le photogramme, en aucun cas, ne peut véritablement tenir le film. Aussi bien, la planche des photogrammes, que celle du storyboard, ne sont pas le film réel. Elle renvoie tout au plus au film virtuel que reconstitue la première, la planche du photogramme, et que la seconde, la planche du storyboarder, programme. Similarité et altérité constitueraient donc leur bonne distance à l'une et l'autre avec le film. Nous aimerions conclure, comme je vous l'ai indiqué à titre programmatique, du côté de l'imaginaire commun du storyboarder et du chercheur. On va essayer de voir ce qui malgré tout les réunit alors que tout les entoure. On ne peut plus répéter leur objectif, leur technique, la chronologie même de leur intervention, tous les autres. Néanmoins, les rapprochements que nous avons tenté d'esquisser, et qui s'incarnent parfois en une seule et même personne, Eisenstein, Romer, ne sont-ils pas également cherchés dans l'imaginaire du storyboarder et du chercheur? Finalement, la même passion fétichiste de l'image arrêtée laissée en photogramme, comme substitut du film les anime, le même désir qui est aussi la contrainte de retenir le mouvement qui fait le film les réunit, et n'ont-ils pas en partage la même volonté de faire ou refaire leur propre film? Ça, Bruno était plutôt très modéré ce matin sur l'histoire de faire son propre film à la place du cinéma, bien évidemment. Plus généralement, l'analyste, puisque c'est essentiellement de lui qu'il s'agit dans mon propos, n'enclenche-t-il pas dans son désir de compréhension du film ce mouvement régressif en direction du film et plus largement encore vers les arcanes de la création, que sont le scénario, voir le storyboard pour arriver à son auteur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la démarche même de l'analyse qui, d'une certaine manière, retrouve, par ce processus de régression qui n'est pas à prendre au sens, évidemment, du jugement de valeur, mais par le mouvement en arrière qui est enclenché, qui repart vers le film. Et donc, pour conclure, j'ai cité une phrase de Godard que j'ai trouvée qui était publiée en 1965 à propos de Pierre Rolouf. Où il imaginait, dans cet entretien, la critique d'un film, voilà comment il l'a définie, il ne parlait pas de l'analyse, mais bon, parfois analyse et critique, c'est des mots qui sont un petit peu interchangeables. Jean-Luc Godard donc imaginait, en 1965, la critique d'un film, là je le cite, imaginait la critique d'un film comme le texte de ses dialogues, avec ses photos, quelques commentaires, et concluait en disant, l'ensemble formerait une sorte de critique, d'analyse de film, c'est-à-dire que l'on voit effectivement que, à un moment donné, l'esprit de Godard, l'une ou l'autre posture sont tout à fait communes et aboutissent à la critique ou à l'analyse de film.